chapitre 1er, et on va relire à partir du verset 3, mais on y ajoutera le verset 8, hein, parce que c'est surtout celui-là qui m'intéresse. Donc je rappelle un petit peu le contexte, hein, c'est la déportation à Babylone, le peuple d'Israël a désobéi, et puis intervient la déportation, et là il se passe des choses, il dit ceci, Daniel chapitre 1er verset 3, le roi Nebuchadnezzar donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna ou leur imposa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël ou Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Et il y a ce verset qui est là, qu'on ne peut pas ignorer. À partir de là, il nous a dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Voilà, quand je lis la Bible, je suis interpellé de voir le nombre de récits, et je vais en citer quelques-uns rapidement, le nombre d'histoires où finalement il s'est passé des choses extraordinaires, la main de Dieu était là, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, on voit des choses qui sont là, et je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait quand vous lisez la parole, ça vous met l'eau à la bouche. Vous êtes là, vous dites, oh, Seigneur, et moi quoi. Je voudrais vivre ce qu'ils ont vécu, quoique des fois, on se dit, bon, il valait mieux que moi. Hein. La fosse au lion, la fournaise, oui, je ne sais pas si on veut vraiment le vivre, mais enfin. Mais c'est vrai que ça nous met l'eau à la bouche. Quand vous lisez ça, vous dites, Seigneur, c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'à chaque fois, ou presque, on se rend compte que ce n'est pas une affaire de compétence. Ce n'est pas une affaire, comme disait Anaïs, d'être digne ou pas digne. Ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire de circonstances favorables, parce que la plupart des fois, des cas où Dieu agit, justement, les situations étaient défavorables. Hein. C'est d'abord et avant tout une histoire de choix et de décision. Et cet après-midi, rapidement, j'aimerais vous parler de choix et de décision, parce que je me rends compte de plus en plus, au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, qu'un choix pour Dieu, ça peut changer toute une vie. Ça peut tout bouleverser, un choix, une décision, au travers de, moi ça m'a parlé, c'est ce qu'Anaïs disait, au travers d'une réunion, une petite réunion, même où on est 10. De toute façon, il n'y a pas de petite ou de grande réunion, il y a une réunion, point barre. Parce que le Seigneur est là, là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux, qu'on soit 10 ou qu'on soit 150 000, je veux dire, le Seigneur est là. Voyez. Donc, mais si dans ce moment-là, on saisit qu'on a un choix à faire, une décision à prendre pour Dieu, et qu'on le fait, on n'imagine pas tout ce que ça peut produire. Pendant ces quelques jours de congé, là, j'avais un peu plus de temps, donc j'ai lu. J'ai lu ma Bible, rassurez-vous, parce que c'est la première chose que je lis quand même d'abord. Hein, mais j'ai lu le livre que je vous ai conseillé ce matin. Alors, j'ai été vraiment... vraiment, ça m'a fait du bien. J'ai vu que beaucoup l'ont commandé, c'est très bien. Mais en lisant ce livre du frère Salafranc, du pasteur Salafranc, il y a quelque chose qui m'a interpellé, parce que ça revient tout au long de son livre. C'est que plusieurs fois, il dit qu'il s'est retrouvé face à des choix, il a fait des choix, et à partir de ces choix-là, la bénédiction de Dieu a découlé. Et ça revient alors dans ce livre comme un leitmotiv. Alors, peut-être permettez, sans que, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, on va le commander, rassurez-vous, il va arriver vite. Hein. Mais regardez, juste deux, trois témoignages comme ça. Je crois que c'est bien d'entendre des témoignages, mais regardez, par exemple, il y a un petit paragraphe, c'est écrit « Un choix déterminant ». Regardez, il dit « Dans cette période », donc c'est le Patrick Salafranc qui parle, hein, « on me propose un travail intéressant, car depuis le départ de chez mon oncle, j'enchaîne à nouveau les petits boulots. C'est dans un restaurant basque. Le patron me propose une place de serveur avec une formation au métier de la restauration. Et à l'époque, hein, 1400 francs. Les anciens, ça vous parle un peu plus. Hein. 1400 francs par mois et tu doubleras ton salaire avec les pourboires, me dit le patron, qui m'a à la bonne. Ce qui, pour l'époque, fait une jolie somme. J'ai absolument besoin de ce travail car je suis sans ressources, mais je travaille le soir, le dimanche, et je ne pourrai plus assister à ces réunions qui me font tellement de bien. » Là, il est au début, il n'est même pas converti. Il dit « Je ne suis pas encore converti, je n'ai pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, je ne suis pas né de nouveau, mais je comprends que si j'accepte ce travail, ça en est fini avec cette aventure spirituelle que je suis en train de vivre. J'ai donc un choix à faire, choix décisif dont je réalise encore aujourd'hui qu'il a été capital pour le reste de mon existence. Cela paraissait être un petit choix, mais il allait avoir de grandes conséquences. Ma décision est prise, je refuse ce travail au grand désespoir de mes parents adoptifs. » Vous voyez ? Et il le dit, hein, ce choix a eu de grandes conséquences. Et regardez, une deuxième un petit peu plus loin, alors c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu un témoignage que j'ai donné vendredi soir à ceux qui étaient là. Il raconte le témoignage de... Il dit ceci: « Un jour, c'est ma marraine qui souffre de la gorge. Cela fait des années qu'elle a des problèmes de gorge. Peut-être à cause du fait qu'elle aime boire son café brûlant. Chaque fois que le mal s'intensifie, elle va voir un guérisseur qui la soulage pour un moment, mais le mal revient. » Je crois que c'est important de rappeler que ces choses-là, Dieu les condamne. Hein. Vous voyez ? « Elle en voit plusieurs, mais le mal revient toujours un peu plus fort qu'avant. Un jour, le guérisseur lui dit: « Madame, je ne peux plus rien faire pour vous, c'est grave. Allez voir un médecin. » Le verdict tombe, c'est un cancer de la gorge qui, comme tous les cancers des voies respiratoires, essaime rapidement avec un fort taux de mortalité. Le médecin propose une radiothérapie, les rayons mal dosés vont lui brûler les cordes vocales au point qu'elle va perdre quasiment l'usage de la parole. Elle parle maintenant avec une voix rauque et pratiquement inaudible. Lorsque je rentre le soir, je la trouve parfois assise dans son lit, une serviette rougie et devant la bouche, elle crache du sang. C'est l'occasion de lui parler à nouveau du Seigneur et d'insister pour qu'elle vienne à l'église où l'on prie pour les malades. Un dimanche, elle accepte. Elle est dans un piteux état. Après l'annonce de l'évangile, alors ça date, hein, le pasteur Henri Roux, pour les anciens, ça vous dit. Hein, le pasteur Henri Roux prie pour elle et le Seigneur pose sa main. Dans les semaines qui suivent, le cancer disparaît complètement. Et ma marraine retrouve toutes ses forces ainsi que sa voix. Le cancer ne reviendra jamais. Écoutez bien. Ma marraine est touchée. Elle a compris que le Seigneur Jésus est vivant et qu'il l'appelle. On parle baptême. Tiens donc. Mais il y a un problème, ma marraine est veuve de guerre et touche une pension qui arrondit bien ses fins de mois. Pour être baptisée, il faut qu'elle se mette en règle avec Dieu en se mariant avec Paul, son compagnon. Mais pour cela, il faut qu'elle accepte de perdre sa pension. Elle a peur de manquer de ressources, elle recule et abandonne toute démarche spirituelle. Elle a fait un choix. Voyez ? Mais là, ce n'était pas le bon. Voyez ? Quand je lisais ce témoignage-là, je pensais au jeune homme riche. C'est un peu la même chose. Hein. Le jeune homme riche des évangiles. Hein. Va avant tout ce que tu as su, moi. Mais ayant entendu cette chose-là, il est reparti tout triste. Voyez. Et Daniel, j'y reviens. Mais c'est l'histoire d'un choix qui a été déterminant. Déterminant pour sa vie. Hein. Il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Pourtant, dans le contexte, quand on regarde un petit peu, eu égard au contexte dans lequel il est, parce qu'il n'est pas en Israël, il aurait pu se dire après tout... Qu'est-ce que ça peut faire ? On va essayer un peu de s'en sortir. On va essayer de sauver un peu les meubles, quoi. Hein ? Ça a l'air d'être un petit choix, mais ça s'est révélé être déterminant pour lui par la suite. Toute l'histoire de Daniel démarre à partir de ce choix-là. Tout le livre de Daniel, il démarre à partir de ce choix-là. S'il ne le fait pas, terminé. Le livre, il s'arrête là, parce que finalement, il fait comme les autres. Et puis, on n'en entend plus jamais parler. Et ça nous enseigne une chose, c'est que comment des petits choix peuvent avoir de grandes conséquences. Des petits choix, peut-être, j'allais dire, d'un point de vue humain, voyez, à ce moment-là, ce n'est pas écrit, mais je me dis que peut-être, le chef des eunuques à qui Daniel va dire ça, peut-être il s'est dit, bon, allez, va, bon, ça va lui passer. Ça va lui passer quelques jours, et puis quand il va voir les autres qui ont bien mangé, qui ont pris de l'embonpoint, et que lui, ben, il crève un peu de faim en mangeant ses légumes, quand il va voir ça, ça va lui passer, et puis il va faire comme les autres, voyez ? Comme des fois, quand on dit aujourd'hui, quelqu'un qui commence à marcher avec le Seigneur, qui s'engage avec le Seigneur, les gens de l'extérieur qui le voient, ils disent « Mais où tu vas ? Je vais à l'église !»« Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'église ? Ah, ça me fait du bien, tout ça !» Et puis les gens se disent ah, « T'inquiète, ça lui passera !» Ça lui passera. Et puis des années après, ça lui a pas passé. Hein ? Vous voyez ? Mais comment un choix, un seul choix qui peut paraître infime, petit, sans relief, ben peut avoir une grande conséquence dans une vie. Toute l'histoire de Daniel est là. Et on le voit ici pour lui, mais rappelez-vous, tous ces hommes de Dieu de la Bible qui ont vécu des trucs. Mais si vous regardez bien, à la base, il y a un ou deux choix qui sont là. Alors par exemple, regardez, je pense à Moïse. Moïse était un homme de Dieu extraordinaire. Moïse, c'est dans le top 5 des hommes de Dieu, même le top 3, quoi. Lors de la transfiguration, avec Jésus, il y avait qui ? il y en avait deux autres, Moïse et Élie. Hein, alors bon, il y a certainement un message là. Moïse, c'est la loi, Élie, c'est les prophètes, et Jésus, c'est la grâce. Vous voyez, donc vous avez les trois là. Hein, mais regardez ce qu'il est dit au départ de Moïse, alors qu'on ne le connaît pas encore. Il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, qu'est-ce qu'il fait? Un, premier choix, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et je me dis que les gens qui ont besoin, ils me disent, il est fou. Avec tous les avantages que ça procurait, la retraite, les plans d'épargne, logement, pouf, impeccable quoi, avec ça, il n'y avait pas besoin de se casser la tête pour l'avenir. Hein. Eh bien, il refuse. Et regardez la suite, aimant mieux être maltraité ou préférant être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous voyez ? La vie de Moïse, à un moment donné, elle démarre par un choix. Il devient l'homme de Dieu qu'il a été parce qu'à un moment donné, il a fait le choix de Dieu dans sa vie. Il a fait le choix du plan de Dieu. Au départ, ça semblait être fou. Ça semblait être irréaliste. Voyez. Mais quand on voit ce qu'il a vécu derrière, c'est comme aujourd'hui, quand un jeune garçon, une jeune fille choisit de marcher avec Dieu, choisit de mettre sa vie en règle devant Dieu, choisit de dire non à certaines choses, de tourner le dos à d'autres, les gens de l'extérieur disent « il est fou ». Elle est folle, elle est tombée dans une secte. C'est ça que les gens ils disent. Voyez, mais là, c'est ce que les gens ont dû dire. Il est fou, refuser d'être fils de la fille de Pharaon. Mais moi, je veux bien l'être. Hein. Mais et regardez ce qu'il est devenu et ce qu'il a vécu avec Dieu. Je pense aussi à l'histoire d'Abraham. Abraham, là aussi. Attention, hein, Abraham, c'est un homme de Dieu. Le père des croyants, le père de la foi, celui qui est appelé l'ami de Dieu. Ouais, mais ça part aussi par un choix. Regardez Genèse 12. Vous rappelez que juste avant, il était à Charan avec son père, Térakh. Et puis Térakh, il meurt. Et puis là, Dieu va s'adresser à lui. Il lui dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voyez ? Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ouais, d'accord, je ferai, ouais, mais... En attendant, pour l'instant, je ne l'ai pas, quoi. Hein. Il y a un truc qui dit « Mieux vaut un tien, tu l'auras » que... Enfin, il y a un truc comme ça, là. Voilà. Voilà. Regardez, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre seront bénies en toi. » Qu'est-ce qu'on fait? Mais regardez ce qu'il fait. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il fait un choix. Il prend une décision. Pourtant, je l'avais souligné il n'y a pas longtemps, à Charan, si vous regardez bien, il avait fait ses affaires, il avait sa vie, il avait tout. Hein, le niveau professionnel, ça avait bien marché. Il aurait pu dire, mais moi, je suis bien là. Tout va bien pour ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Vous voyez? Comme parfois, des gens vous disent, mais quand vous leur parlez du Seigneur, quand vous leur dites, tu as besoin de Jésus parce que tu as besoin d'être sauvé, ils disent, mais moi, tout va bien dans ma vie. J'ai un boulot, j'ai une épouse, j'ai des enfants, j'ai une belle maison, je me paye ceci, j'ai besoin de rien. Mais Abraham, il aurait pu dire la même chose. Mais quand Dieu lui parle, il décide de lui faire confiance. Alors pourquoi cet après-midi, moi, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais c'est important de réfléchir à ça. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me contenter de dire, ben, moi, tout va bien? Ou est-ce que je vais dire, Seigneur, si tu as quelque chose pour moi, je veux le vivre. Alléluia. Puis regardez. Je pense aussi, alors on connaît peut-être un peu moins, c'est pas un peu moins, mais c'est au niveau du nom, elle est un peu en dessous. L'histoire de Rahab la prostituée, d'ailleurs c'est comme ça que la Bible l'appelle, on connaît un petit peu l'histoire de cette femme qui quand même rentre dans la généalogie de Jésus, c'est quand même pas rien. Et là aussi il y a un choix, mais un petit choix à la base. Regardez Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Vous rappelez cette histoire, quand les deux qui avaient été envoyés par Josué sont arrivés dans la ville de Jéricho, elle les a reçus. Elle aurait pu les repousser. Vous voyez, au premier abord, on pourrait se dire, c'est un choix insignifiant. Eh oui, mais elle ne périt pas. Elle ne périt pas. Vous voyez, pour un choix. Et elle a été un instrument de Dieu. Et non seulement elle n'a pas péri, mais toute sa famille est derrière. Pour un choix. Pour un choix. Et quand même, ici, il est question de quelque chose d'important. Il est question de périr. Et moi, je ne peux pas ne pas citer ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Parce qu'il y a un enjeu. C'est notre éternité. C'est notre salut. Et il y a des choix qu'il faut faire pour Dieu afin de ne pas périr. Hein, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et quelque part, si on n'a pas fait ce choix, il faut le faire, même si peut-être ça semble, à l'échelle des valeurs d'aujourd'hui, tellement dérisoire. Mais c'est important. C'est important. Elle n'a pas regardé à qu'est-ce qu'allaient dire les autres, qu'est-ce qu'allaient penser les autres. Elle l'a fait. Alléluia. Puis je pensais aussi à cette autre femme qui, elle aussi, est dans la généalogie de Jésus. Ruth, on en a parlé souvent. Mais Ruth, c'est une femme qui est devenue un instrument entre les mains de Dieu parce qu'elle a fait, à un moment donné, un choix. Et vous rappelez, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure brièvement, mais elle n'était pas toute seule. Il y avait sa belle-sœur, Orpa. Dans la même situation. Et il y en a une qui fait le choix de revenir avec sa belle-mère Naomi au pays à Bethléem, et l'autre qui retourne à sa vie sans Dieu. Vous voyez ? Alors, je résume un petit peu. Hein. Mais on se rend compte que ce choix-là, il a été déterminant. C'est là qu'elle a rencontré Boaz. Boaz qui est un type de Christ. On ne va pas faire une étude cet après-midi. Mais vous voyez, il y a tout ça parce qu'à un moment donné, il y a eu un choix. Il y a eu un choix. Elle a réalisé que c'était un moment important. Moi, je crois que chaque réunion, même une réunion comme celle-ci, même un dimanche après-midi, il y a peut-être un choix important à faire. Parce qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on peut faire. Demain, on ne sait rien. On ne sait plus où on est demain. On ne sait plus où on est. Alors, pourquoi je partage tous ces exemples-là ? Je vais revenir à Daniel un petit peu, mais parce que je crois que dans cette année 2019, elle démarre, on est le 6, on en aura des choix à faire. On en aura des décisions à prendre. Dans tout un tas de domaines. Et je crois que s'il y en a qui ne prêteront pas trop à conséquences, quoique, mais il y en a qui prêteront à conséquences. Et il convient de ne pas se tromper. Il convient de prendre les bonnes décisions. Parce que qu'on le veuille ou non, nos choix, ils ont des conséquences. Nos choix, derrière, hein, parfois vous grattez un petit peu derrière certaines histoires. Des fois, on entend parler un tel, il a vécu ça, il passe par là, tout ça. Et vous dites, mais c'est pas possible, comment il en est arrivé là ? Comment est-ce possible d'arriver dans une telle situation ? Et vous grattez un peu, quand je dis vous grattez sans vouloir faire le détective, mais et vous vous rendez compte que souvent, il y a eu un mauvais choix. À un moment donné, on a loupé un carrefour. Alors que quelque part, Dieu nous tendait la main, alors que quelque part, Dieu nous attendait au tournant. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais obéir ou je vais me faire à mon idée ? On ne l'a pas fait. Ou on l'a fait. Et de là, a découlé une conséquence. Et parfois, vous avez deux personnes dans une même situation. Un fait un choix dans un sens, l'autre dans l'autre. Oui, mais vous voyez le résultat. Et je parlais tout à l'heure de Ruth et Orpa, ben c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Et je crois que les uns et les autres, on a besoin, et je m'y mets dedans, de faire cette prière. Seigneur, dans cette année, toi qui connais tout, qui sais tout, Seigneur, aide-moi à faire les bons choix. Chaque fois que je serai placé devant une décision à prendre, devant un choix à faire, aide-moi à faire le bon choix. Déjà, si on n'a pas fait le choix du Seigneur Jésus dans notre cœur, dans notre vie, ben c'est le premier des choix. Nous repentir de nos péchés, réaliser que sur la croix, Jésus a donné sa vie pour que je sois sauvé. C'est le premier des choix à faire et le recevoir comme son sauveur. Ça, c'est le premier des choix à faire. Mais il y aura tout un tas de choix à faire dans cette année, les uns et les autres. Mais Seigneur, aide-moi, dirige-moi. Vous savez que Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Nous, on ne sait pas tout. Donc, je préfère tout lui confier et dire, Seigneur, toi qui es omniscient, mais Seigneur, toi qui sais ce qu'il y a derrière, les choix, toi qui sais quelque part les tenants et les aboutissants, nous, des fois, on ne voit que la devanture. Hein. Et puis, on pense que c'est bien. Et puis, quand on rentre dedans, après, on se rend compte que ce n'est pas si bien. Mais des fois, pour revenir en arrière, ce n'est pas sans conséquence. Voyez. Donc, Seigneur, toi qui es omniscient, qui sais, mais Seigneur, aide-moi à faire les bons choix. Aide-moi à prendre les bonnes décisions, afin que je puisse pas me tromper, que je puisse peut-être échapper à certaines choses. Hein, moi, je crois que le Seigneur peut nous faire échapper à des pièges, peut nous faire échapper. Des fois, avec le recul, on s'est rendu compte que, heureusement que Dieu nous a gardés, heureusement qu'on n'a pas fait ce choix. Ah, quand on voit avec le recul, on se dit, mais c'est pas possible, j'aurais pu être là, j'aurais pu être dans cette galère. Tout ça. Mais Dieu nous a aidés, que Dieu nous inspire dans nos choix, que Dieu nous montre peut-être ce qui ne se voit pas. Des fois, vous avez une conviction, vous ne savez pas pourquoi. Il ne faut pas que je le fasse, il ne faut pas que Dieu nous inspire. Parce que quelque part, après, une fois que les choses sont engagées, c'est difficile des fois de revenir en arrière. Alors que Dieu nous aide en cette année. Je crois que tous ces exemples, tout ce qu'on a lu là, ils sont là pour notre instruction. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous savez, on n'aurait jamais entendu parler de Moïse, on n'aurait jamais entendu parler de Daniel, on n'aurait jamais entendu parler d'Abraham et de bien d'autres dans la Bible s'ils n'avaient pas fait ces choix. Hein. On n'en aurait jamais entendu parler. Hein, on érige souvent ces hommes de Dieu en référence, et c'est vrai, ils le sont. Mais vous regardez à la base, il y a quoi ? Il y a un choix. Il y a un ou deux choix. Vous voyez, des choix forts, des choix qui peut-être ont coûté sur le moment. Moïse, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. sur le coup, voyez, il s'est peut-être retrouvé sans rien ou presque sans rien, mais il n'aurait jamais été l'homme de Dieu qu'il a été. On n'en parlerait pas comme on en parle aujourd'hui s'il n'avait pas fait ce choix-là. Voyez. Et à contrario, vous en avez d'autres, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Je parlais tout à l'heure du jeune homme riche. Vous n'avez jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'il est devenu celui-là ? Hein, et pourtant, au départ, il est plein de bonnes intentions. Vous voyez comme quoi, dans la vie avec Dieu, les bonnes intentions, c'est bien, mais il faut que ça aille plus loin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle ? Ben, écoute, hein, tu connais les commandements ? Oui, oui, je les connais. Dès ma jeunesse, je les ai faits, etc. Ben, écoute, à un moment donné, il te manque une chose. Va, vends ce que tu as et suis-moi. Alors, ça ne veut pas dire que le Seigneur il est contre le fait qu'on ait des biens, hein, c'est pas ça. Mais chez lui, c'était son problème. Et c'est pour ça que le Seigneur lui dit ça. Et là, il fait le mauvais choix. Et je me dis que si Jésus lui dit « Va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi », ça veut dire qu'il avait un plan pour sa vie, comme il en a pour un pour chacune de nos vies. Mais c'est à nous de nous déterminer. Le Seigneur ne va pas nous supplier. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit à propos du jeune homme riche que le Seigneur ne lui a pas couru derrière. Hein. Le Seigneur ne nous courra jamais derrière. Tu veux pas, tu veux pas. Hein, on veut pas, on veut pas. On décide de dire non, moi je fais ma vie, je fais comme j'ai envie, selon mes idées, selon mes conceptions, selon ma foi à moi. Ok. Mais le Seigneur ne nous courra pas derrière. Il n'a pas couru derrière le jeune homme riche. Je pense à cette jeune femme dont j'ai parlé il y a quelques instants, Orpa. Mais je sais pas, je me dis, imaginez que cette histoire Orpa et Ruth, elle existait aujourd'hui. Avec les moyens d'aujourd'hui. Et Orpa qui a fait le choix de rester dans sa vie comme elle était jusque-là, plutôt que de faire le choix qu'a fait sa belle-sœur, par Internet ou par Facebook, elle apprenne ce qu'est devenu Rahab. Ouais, bon, vous avez compris, c'est bien. Ruth. Vous imaginez ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais pourquoi j'ai pas fait comme elle ? Pourtant, au début, vous vous rappelez, elle a dit, mais moi aussi, j'irai. Elle aussi, elle a pleuré. Vous savez, ça m'interpelle. Je me dis que, dans le ciel, des gens qui seront perdus, écoutez-moi bien, qui seront perdus, et pourtant qui auront pleuré dans une réunion, quelle qu'elle soit, où l'évangile a été prêché, qu'importe l'endroit, il y en aura. Et il y en aura une ribambelle. Hein. Des gens qui ont pleuré, des gens qui ont pas été insensibles. Mais le problème, c'est qu'ils n'auront jamais fait un choix. Ils n'auront jamais pris une décision. Vous voyez, ben, Orpa en fait partie. Et on a lu l'histoire de Daniel. Mais vous avez remarqué, je ne l'ai pas relevé, mais au début, quand ils arrivent, Daniel... Souvent, quand on lit l'histoire de Daniel et ses trois amis, on a l'impression qu'il n'y a que eux quatre. Hein. Mais il n'y a pas que eux quatre. Hein. Verset 3, on l'a lu, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël. Quelques-uns, alors, je ne sais pas combien il y en avait. Hein, mais et quand on voit qu'il y en a quatre qui se déterminent, et tu te dis, mais les autres, ils ont fait quoi ? On n'en parle pas. Ils ont disparu de la circulation. Et chaque fois, je le dis, peut-être je me répète, je radote un peu, je deviens un peu vieux, mais quand je pense à ça, je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je suis arrivé à l'église, j'avais 14 ans, dans une église comme celle-ci, c'était à Montpellier, au Verdanson là-bas. Et je me souviens de la ribambelle du groupe d'ados qu'on était là. On était 20-25 là. Et aujourd'hui, avec le recul, 30 ans après, ouais, 30 ans après, je connais un peu le parcours de certains, d'autres, merci Seigneur, mais c'est en minorité, ils sont au Seigneur. Ils sont au Seigneur. Mais il y en a d'autres. Hein. Quand on m'a donné un petit peu des nouvelles, un qui est parti en prison, un autre qui est mort... Et je me dis, pourtant, au départ, on était tous pareils. Hein. Tous pareils. Voilà, on était tous des ados, un peu fous, un peu fada des fois. Mais je me dis, mais Seigneur, mais quelle grâce de ce qu'un jour je t'ai dit oui. Parce que j'ai confessé ton nom, mais j'étais pas meilleur, j'étais pas digne, comme disait Anaïs. Mais alors, mais Seigneur, un jour je t'ai dit oui, j'avais pas tout compris, ça c'est clair, j'avais pas tout compris. J'avais compris que Jésus était mort sur la croix pour moi, ça j'avais compris. J'avais compris que j'avais besoin d'être sauvé, que j'avais besoin de me repentir de mes péchés, ça j'avais compris. Après, pour le reste... C'est venu au fur et à mesure. Hein. Mais je me dis, mais heureusement que j'ai fait ce choix. Parce que sinon, aujourd'hui, je serais comme les autres. Hein. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous, voyez. Et ces garçons-là, ils ont été sur le même, au départ, ils étaient comme Daniel, comme les quatre. Et vous imaginez, moi, je ne sais pas, tous les autres, quand ils ont vu ce que devenait Daniel et ses amis, ils n'ont pas dû se dire à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on a fait? Oh, mais pourquoi on n'a pas fait le choix comme eux? Enfin, je ne sais pas, ça c'est moi qui le dis. Hein, vous avez notre choix. Moi, qui m'a toujours interpellé dans la Bible, c'est celui de Lot. On a lu tout à l'heure Abraham, là. Abraham, il partit avec Lot. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, l'histoire d'Abraham et de Lot, c'est l'histoire d'un homme qui a pris une décision et il est dit, et Abraham partit, et Lot partit avec lui. Le problème de Lot, c'est que ça plus était un suiveur. Voyez, Dieu ne nous appelle pas à être des suiveurs. Un suiveur. C'est-à-dire, bon, ben, je suis le mouvement, je viens, je suis le mouvement, c'est sympa, de temps en temps, ça fait une bouffe, donc c'est bien. Ouais, tant mieux. Mais Dieu ne nous appelle pas à être des suiveurs. À un moment donné, il faut faire un choix. Et d'ailleurs, quand il a fallu qu'il le fasse, parce que vient toujours un moment donné où il faut qu'on le fasse. Vous savez, Dieu suscitera toujours une situation, une circonstance, on dit, mais pourquoi c'est là? Ben, c'est là pour que tu fasses un choix. Pourquoi ce problème? Pourquoi cette, tout d'un coup là, tu sais, il y a un truc qui vient, ce n'était pas prévu au programme. Comment ça se fait? Je ne sais pas si je suis en train de prophétiser en disant ça, mais si ça arrive, ben vous penserez à ce qui a été dit cet après-midi. Ben peut-être que c'est là pour qu'on prenne une décision personnelle vis-à-vis du Seigneur. Et l'autre, vous rappelez, je ne l'ai pas donné, hein, Genèse 13, verset 10, qu'est-ce qu'il a fait? Il choisit pour lui toute la pleine journée. Il n'a pas prié, il n'a pas demandé à Dieu. Rien du tout, il n'a pas mis Dieu dans l'affaire, il n'a pas mis Dieu dans le coup. Et ça a été une catastrophe. Vous voyez comme quoi un choix, un mauvais choix peut s'avérer être catastrophique et non seulement pour lui, mais vous avez vu ses enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ses filles, la mentalité, elles ont pris la mentalité de Sodome et Gomorre, sa femme est devenue une statue de sel. Enfin, et tout ça parce qu'à la base, il y a eu un mauvais choix. Tout ça pour un mauvais choix. Moi, ça m'interpelle. Et je me dis, mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Je ne sais pas quels sont les choix qui se présenteront devant nous, mais il convient de ne pas se tromper. Et cet après-midi, il faudrait tellement que ça puisse parler à nos cœurs. Et je l'ai dit déjà, si on n'a pas fait ce choix du Seigneur, mais faisons-le. Décide, comme on l'a chanté, je décide de te suivre. Je n'ai pas tout compris, Seigneur, mais j'ai compris que tu veux le meilleur pour ma vie, que tu as un plan pour ma vie. Alors Seigneur, je veux te suivre, je veux aller plus loin, je veux te rencontrer, te connaître. Mais après, il y a tellement d'autres choix. Seigneur, aide-moi à choisir, non pas simplement ce qui me convient, mais Seigneur, ce qui va dans le sens de ce que tu as prévu pour moi. Vous savez, quand on a parlé de Moïse, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il n'a pas choisi ce qui lui convenait. Hein. Il a choisi le plan de Dieu. Et des fois, le plan de Dieu, ben, ça va nous amener à faire le contraire de ce que tout le monde ferait. De dire, ben, ça non. Ben, tout le monde le fait, mais pas moi. De passer pour un ringard, un fou, tu es dans une secte, mais c'est pas grave. Moi, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Alléluia. J'ai relevé, là, j'ai noté. Il y en a un autre, il est très court. Regardez. Alors, c'est dans une. Voilà, encore. Il parle encore d'un choix, le frère, là. Regardez. Là, il parle d'une recherche d'appartement. Ben ouais, parce que même ça, même dans le domaine matériel, c'est fou. Pas rigoler, hein. Des fois on peut se mettre dans des galères, hein. Que Dieu nous aide. Moi je sais pas si cette année on a projeté de faire un achat, je sais pas moi, un appartement, c'est pas un péché, mais mettez Dieu dans le coup, hein. Et il dit, dans cette recherche pour un nouveau logement, c'est le seul appartement que nous avons visité, et ainsi j'apprends que quand c'est Dieu qui conduit les choses, on gagne beaucoup de temps. Et donc il achète cet appartement, je lis pas tout, hein. Nous venons avec son épouse de prendre sans le savoir une décision qui va changer le cours de notre vie. Nous prenons sans le savoir une décision qui va changer le cours de notre vie. Et je crois vraiment que c'est important qu'on le réalise. Il y a des décisions qui peuvent changer le cours de notre vie. La première, c'est celle de prendre Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais après, il y en a d'autres. Et que dans cette année, Dieu nous dirige, Dieu nous aide. C'est important. C'est important. Vous voyez, au travers de tous ces exemples, c'est là pour vraiment nous interpeller. Dans cette année, moi, je ne sais pas ce qu'il y a devant. Je ne sais pas ce qui va arriver. Peut-être si on le savait. Remarquez, des fois, ils ne vont pas savoir. Comme ça, c'est bien. Des fois, Dieu ne nous dit pas tout. Et c'est très bien pourquoi. Mais il vaut mieux. Il vaut mieux. Des fois, pour ça que toutes ces histoires-là d'astrologues, de guérisseurs, tout ça, de diseurs de bonne aventure, l'avenir, tout ça. Laisse ça entre les mains du Seigneur. Il faut laisser ça entre les mains du Seigneur. Seigneur nous dirige, Seigneur nous conduit. Voyez. Mais j'aimerais terminer par une prière. C'est une prière que David un jour a faite dans le psaume 143, verset 10. Et on va l'afficher. Et moi, c'est une prière que ça fait longtemps que je dis, Seigneur, je veux la faire mienne. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Voilà. David, il est conscient que la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas inné. Qu'on a besoin que Dieu nous enseigne, qu'on a besoin de dire, Seigneur, montre-moi, guide-moi, dirige-moi, voyez, pour faire ta volonté. Et vous savez, si c'est notre désir de faire sa volonté, et je le crois, sinon je ne serais peut-être pas là cet après-midi, si on veut faire la volonté, inévitablement il y aura des choix à faire. Inévitablement, parce que sa volonté, Dieu ne nous l'imposera pas. Et il ne nous l'imposera pas. Mais quelque part, il y a des moments où va intervenir des carrefours, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions. Alors c'est à ce moment-là qu'on dit, Seigneur, moi je veux faire ta volonté, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des choix qui s'imposeront tout seuls. Il y a des décisions, parce que je veux faire ta volonté, je sais dans tel domaine ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres, ça ne sera pas forcément évident. Mais je crois une chose, c'est que si vraiment dans notre cœur, on a ce désir, cette soif de faire la volonté de Dieu, Dieu va nous diriger. Il va fermer les portes, il va ouvrir les portes, il va faire les choses comme il faut. Hein, et même si peut-être des fois il nous faudra faire un petit détour, hein, ce n'est pas grave. Mais le Seigneur nous conduira. Et je voudrais vraiment les uns et les autres nous encourager. Je ne sais pas où on en est les uns et les autres avec le Seigneur, mais que l'histoire de Daniel puisse quelque part nous interpeller et nous faire réfléchir. Voyez, un choix, il est résolu de ne pas se souiller par les mets du roi. Oh là là, peut-être combien on aurait dit, qu'est-ce que ça peut faire? Mais toute la suite, elle part de là. Moi, je sais que je ne connais pas la suite, mais la suite de notre vie, elle découlera directement des choix et des décisions qu'on aura prises. Alors moi j'ai envie de dire, Seigneur, aide-moi, conduis-moi, ouvre-moi les yeux. Toi qui es omniscient, qui sais tout, qui connais tout, Seigneur, aide-moi, vraiment, montre-moi peut-être ce que je vois pas, les pièges, je lui dis. Et même si peut-être ça va à l'encontre de ce que tout le monde aurait fait, mais Seigneur, mets cette conviction dans mon cœur de ce que je dois faire ou pas faire. Et Dieu nous conduira, enseigne-moi à faire ta volonté. Si Dieu discerne ça, il n'y a aucun souci, Dieu te dirigera. Dieu nous conduira. Dans cette année, ça sera une année bénie. Et on pourra rendre témoignage, dire ben, dans telle ou telle situation, il y a eu un choix à faire. Je n'ai pas tout lu, hein, mais il y en a une ribambelle. Lisez-le, ça va vous faire du bien. Il y a la suite qui arrive, hein, mais Seigneur, aide-nous à faire les bons choix. Aide-nous à faire les bons choix. Hein. Alléluia. On prie le Seigneur qui nous aide. Seigneur, encore ce soir, cet après-midi, je réalise que sans toi, on ne peut rien faire. Et toi qui nous connais parfaitement cet après-midi, toi qui sais où nous en sommes, Seigneur, je te demande de nous aider. Dans cette année qui s'ouvre, Seigneur, on a besoin de toi. Dirige-nous, conduis-nous, aide-nous à faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Peut-être quelqu'un est devant des choix à faire, peut-être pour le domaine professionnel, sentimental, Seigneur, financier, que sais-je encore. Peut-être quelqu'un n'a pas encore fait ce choix du salut pour sa vie cet après-midi. Seigneur, parle à son cœur. Seigneur, toi qui parles par le Saint-Esprit encore, Seigneur, fais-le cet après-midi. Mais en tout état de choses, Seigneur, ce que nous voulons, c'est que tu nous enseignes à faire ta volonté, à marcher, Seigneur, dans ce que tu as prévu. Seigneur, aide-nous. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je te demande ta grâce. Je te demande de nous aider, de nous visiter. Et que cette année soit une année de grâce. Que cette année soit une année de salut. Une année de bénédiction. Une année vraiment, Seigneur, où vraiment le Saint-Esprit puisse faire son œuvre, puisse nous amener plus loin les uns les autres. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sauve encore dans cette ville, dans nos familles, Seigneur. Étends tes mains. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que vraiment, Seigneur, ta grâce se multiplie, se déverse, Seigneur. Peut-être là où encore aujourd'hui il y a des souffrances, peut-être là aujourd'hui où il y a des situations compliquées, difficiles, Seigneur, où il n'y a pas d'issue peut-être, Seigneur, nous te demandons ta grâce, Seigneur, et nous savons que tu n'en as pas fini. Alors Seigneur, à toi la gloire, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis mes amis qui sont là, Seigneur, cet après-midi, et Seigneur, manifeste-toi, étends ta main, glorifie-toi, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, comme dit ce chant, nous voulons voir des prodiges, nous voulons te dire comme les premiers disciples, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des prodiges, des miracles, dans le nom de ton Saint-Esprit. Service. serviteur Jésus. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. La gloire de Dieu, ni plus ni moins, parce que tu n'as pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Et garde-nous dans ta paix, Seigneur. Garde-nous de tout piège, Seigneur, afin que vraiment, Seigneur, nous allions jusqu'au bout avec toi. Seigneur, je te bénis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va rester juste quelques instants.